Bonjour, je suis Charlotte Coulot. Tous les mois, retrouvez mon émission « Charlotte vous montre la voie ». On y parlera technique, histoire, musique, avec des voix hors du commun et des spécialistes originaires d'Occitanie, mais pas que. Bref, des gens formidables avec qui je vais échanger des astuces et des confidences dans l'intimité. C'est tous les mois, c'est sur Radio Galaxy. Charlotte vous montre la voie à suivre. Allez, c'est parti pour cette quatrième émission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter une soprano d'exception, puisqu'il s'agit d'Anaïs Constant. Anaïs, vous êtes la star du lyrique de la région toulousaine, soliste. Vous vous produisez dans le monde entier et avez gagné de nombreux concours. Nous sommes très fiers de vous recevoir ici, dans les studios de Radio Galaxy, et avons bien sûr beaucoup de questions à vous poser. Anaïs, bonjour.
Bonjour Charlotte.
En quelques lignes, je vais reprendre votre magnifique parcours. Vous êtes soprano, diplômée du Conservatoire de Toulouse, puis vous vous êtes perfectionnée auprès de Claudine Ducré, Jean-Marc Bouget, Nino Pavlenichvili et Mariella De Villa. Vous avez suivi la formation du CNIPAL à Marseille. Lauréate de nombreux prix de concours internationaux, Théâtre du Capitole de Toulouse en 2013, Opéralia Placido Domingo en 2014 à Los Angeles, Montréal 2015, Vignas 2017 à Barcelone, et je ne les cite pas tous. Et puis bien sûr, vous avez incarné plusieurs rôles à l'opéra. À l'Opéra National du Capitole de Toulouse, Suzanne dans Les Noces de Figaro de Mozart, Mimi dans La Bohème de Puccini, Blanche de la Force dans Le Dialogue des Carmélites de Poulenc, Pamina dans Die Zauberflöte de Mozart, Bertha dans Le Barbier de Séville de Rossini à l'Opéra National de Paris-Bastille, Michaela dans Carmen de Bizet à l'Opéra de Monte Carlo, Leila dans Le Pêcheur de Perles de Bizet, Donna Anne dans Don Giovanni de Mozart à l'Opéra de Toulon et à l'Opéra de Québec, Lauretta dans Giannis Kiki de Puccini à Liverpool, aux côtés de Sir Brinterfell, sous la direction de Domingo Indoyan. Vous vous produisez régulièrement en récital, notamment aux côtés du guitariste Thibaut Garcia, dans un répertoire espagnol. Et on a pu vous entendre aux côtés de l'Orchestre de Chambre de Toulouse, sous la direction de Gilles Colliard, pour un répertoire Mozart, Cantaloube. En récital au Danemark, aux côtés du chef Marc Sustro, au Palazzetto Bruzzano de Venise, avec Anne Le Bouzec au piano, à la Halograin de Toulouse. En récital avec l'orchestre Victor Hugo, Franche-Comté, sous la direction de Jean-François Verdier, au Festival Berlioz. En récital aux côtés de la mezzo-soprano Karine Dehé, pour la folle soirée de l'Opéra Radio Classique au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Vous avez été soprano solo dans le Requiem de Mozart à Bruxelles, sous la direction d'Hervé Niquet. La messe du couronnement de Mozart sous la direction de Laurence Equilbé au Théâtre du Châtelet. En collaboration avec le label Bruzzane, vous apparaissez dans de nombreux disques au sein de la collection Livre-Disques Opéra Français et nous en écouterons un extrait. Et tout dernièrement, vous avez incarné Mireille, le rôle-titre de l'opéra de Charles Gounod sous la direction d'Emmanuel Plasson, ainsi que Iris dans Gourou de Pity Girard à l'opéra de Nice. Anaïs, la voix pour vous semble avoir toujours été une évidence. Quelle petite fille vous étiez et quel était votre rapport à la voix ?
Alors, déjà, vous avez mentionné beaucoup de rôles et encore, on n'a pas tout dit parce que sinon, ça prendrait beaucoup de temps. Mais déjà, peut-être que la liste est exhaustive, mais peut-être ça peut donner des idées à chacun de, je sais pas, de retaper un nom d'opéra sur Internet ou autre et d'aller découvrir peut-être, je sais pas, des mots qui résonneront en eux. Mireille, La Flûte enchantée, La Bohème ou n'importe. La petite fille que j'étais a toujours aimé chanter. Depuis toujours, le matin, le soir avant de m'endormir, je tournais dans mon lit comme ça. Je ne pouvais pas m'endormir si je ne chantais pas dans mon lit. Après, ça s'est passé, hein, évidemment, je ne fais plus ça maintenant. Mais ça a duré relativement longtemps. Et la petite fille que j'étais, à l'âge de 9 ans, a voulu commencer à intégrer la chorale du village où j'habitais, à côté de Corbarieux, dans le Tarn-et-Garonne, la chorale de Régnès, car ma sœur, ma grande sœur, en faisait partie, et je voulais évidemment faire comme ma grande sœur. Et en fait, je n'ai jamais quitté cette chorale. J'y suis rentrée à l'âge de 9 ans et je l'ai quittée à l'âge de 19 ans quand j'ai dû partir, notamment au CNIPAL à Marseille, pour parfaire mes études.
Donc les chorales pour les enfants, c'est vraiment l'idéal.
Mais c'était même pas une chorale pour enfants, c'était une chorale d'adultes, une chorale amateur d'adultes, comme il en existe dans pas mal de villages ou villes alentours. Et en fait, c'est une chorale où j'ai découvert, on va dire, déjà la musique polyphonique, le fait de chanter ensemble. Ça, c'est merveilleux de pouvoir accorder les voix ensemble. Et le chef de chœur a tout de suite entendu aussi que j'avais une voix qui sonnait particulièrement bien. Donc, j'ai appris aussi petit à petit à être soliste. Donc, aujourd'hui, c'est le métier que j'exerce. Mais lorsque j'avais 11 ans, j'ai fait mes premiers solos. Donc, ça veut dire chanter toute seule avec un chœur derrière ou avec un piano à côté. Et ce fut pour moi vraiment les premières rencontres de la voix et aussi les rencontres de la voix face à un public, c'est-à-dire de gérer son stress, de gérer la pression, en fait, tout simplement, parce que la voix est portée par notre corps. Donc notre corps, nos émotions, ce que l'on peut ressentir sur le moment fait partie de nous lorsqu'on chante à chaque moment. Donc c'est passionnant.
Et quand avez-vous décidé d'en faire votre métier ?
Alors, j'ai décidé d'en faire mon métier. J'ai eu la chance de faire beaucoup de belles rencontres au fur et à mesure de mon parcours. Je suis rentrée au conservatoire de Montauban à l'âge de 15 ans. Et ensuite, j'ai eu énormément de chance de rencontrer Franck Tézan au festival Bruniquel dans le Tarn-et-Garonne. C'est un festival dédié à Offenbach qui existe toujours aujourd'hui. Je ne veux pas dire de bêtises si je dis qu'on en est à la 25e ou 26e édition de ce festival. Et j'ai pu rencontrer des chanteurs absolument merveilleux et inspirants lors de ce festival. Parce qu'au début, je participe à ce festival en tant que choriste, donc vraiment un petit chœur de jeunes filles. Ensuite, j'étais figurante et petit à petit, en fait, je suis devenue soliste. Donc en fait, j'ai gravi les échelons lors des 8 années où j'ai pu faire partie de ce festival. Pour moi, c'était un bonheur extraordinaire parce que j'ai pu évoluer, mais j'ai surtout pu aussi observer les chanteurs qui étaient présents sur les productions. Et pour moi, c'était un rêve éveillé. Et je me suis dit que je voulais en faire mon métier. Au début, je voulais être médecin la semaine et chanteuse le week-end. Mes parents m'ont dit que ce n'était pas possible. Donc, j'ai fait un choix. Et en fait, la voix est devenue une évidence lorsque j'ai eu 17-18 ans.
Vous êtes soprano lyrique, c'est bien ça ?
C'est ça.
Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que c'est que d'être soprano lyrique à nos auditeurs ?
Alors en fait, il y a plusieurs types de voix de femme. Donc la voix la plus aiguë regroupe le terme soprano. En dessous, nous avons la voix de mezzo-soprano qui est médium et la voix d'alto qui est une voix grave de femme. Et parmi les sopranos, il y a plusieurs types de voix. La voix la plus aiguë, l'extrême aiguë, c'est la soprano coloratura, donc qui va chanter des notes dans les extrêmes, les hautes sphères, qui vont faire des rôles je pense notamment au rôle du rossignol, c'est tellement parlant, dans L'Enfant et le Sortilège de Ravel. Voilà, ça c'est le soprano coloratura. Ensuite, il y a le soprano lyrique léger, donc qui est un soprano aussi assez aigu, qui se rapproche du lyrique. Et le soprano lyrique est un soprano avec un peu plus un médium un peu plus présent, c'est-à-dire, je ne dirais pas que ça se rapproche du mezzo-soprano, mais petit à petit, en fait, on se rapproche quand même de cette voix-là. Et ensuite, entre vraiment ce soprano lyrique et ce mezzo-soprano, enfin, il y a aussi le soprano dramatique, qui pour le coup est une voix un peu plus corsée, avec un grave plus appuyé, plus présent.
Vous parliez de L'Enfant et les Sortilèges de Ravel. C'est une production que vous avez faite aussi à l'Opéra de Toulouse.
Exactement.
Et vous incarniez le rôle du feu.
Oui.
Alors, le rôle du feu, c'est un personnage qui est chanté par un soprano coloratura plutôt.
Oui. Oui.
Est-ce que ça veut dire que votre voix a un peu évolué depuis...
Ma voix a beaucoup évolué, exactement. Oui. En fait, j'ai une voix en fait, avec les notes suraiguës. Donc, on m'a catégorisée comme un soprano coloratura au début de ma carrière. Un soprano coloratura, un lyrique léger, on ne savait pas trop parce qu'en fait, j'ai une étendue de voix qui est assez grande. Donc, je suis à l'aise dans le médium, mais aussi dans l'aigu. Et puis, j'ai aussi les notes suraiguës, mais ce n'est pas ma zone de confort. Voilà, aujourd'hui, en plus, le temps passant, parce que bon, il s'est passé quelques années depuis cet Enfant et les Sortilèges. Il s'est passé quasiment 12 ans. Donc, je n'ai pas honte de dire le nombre d'années parce que c'est important de savoir que la voix évolue. Le corps évolue, les personnages évoluent. Évidemment, on ne va pas donner le rôle d'une vieille sorcière à une jeune fille de 20 ans, ou alors vraiment grimée avec beaucoup de maquillage ou quoi, mais il y a quand même une certaine cohérence par rapport aux tessitures de voix et aux rôles qui sont attribués. Après, évidemment, l'avantage de l'opéra, c'est qu'on peut aussi tricher avec des costumes, des maquillages. Mais pour ma part, en tout cas, la voix évolue vraiment vers un lyrique. C'est-à-dire que j'ai toujours eu ces notes suraiguës ou quoi, mais ce n'est pas ma zone de confort. Enfin, il y a des filles qui font ça mieux que moi. Moi, j'ai une voix qui se plaît, on va dire, à rester plus dans de l'aigu ou dans du médium. Mais le suraigu, si je fais qui passer, c'est parfait pour moi. Voilà, on va le résumer comme ça pour les novices et les moins novices aussi.
Je propose qu'on vous écoute tout de suite dans l'air de Manuela d'Offenbach, Petit Papa, protégez-moi. Anaïs, nous avons entendu votre très belle voix dans cet air très vivant qui présente une alternance de chœur avec votre rôle de soliste. Le chœur, c'est un élément indispensable pour vous. Vous l'évoquiez tout à l'heure, ça a été une évidence de ne pas être choriste.
Les choses se sont présentées assez naturellement. Ce n'était pas forcément une évidence de ne pas être choriste. C'est juste que ma voix s'est vraiment tournée vers un répertoire soliste assez facilement. S'il avait fallu être choriste, j'aurais été choriste, évidemment. Mais le chemin s'est ouvert vers le répertoire soliste. Mais ce qui est magnifique à l'opéra, c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai proposé cet extrait-là, c'est cette alternance entre le soliste et tous les choristes, parce qu'il y a toujours cet ensemble entre 40 ou 50 chanteurs qui sont là et qui chantent ensemble et qui donnent un côté tellement vivant à l'opéra et aussi un côté très, très dramatique dans les opéras de Verdi ou Puccini, n'importe. C'est des éléments magnifiques et on chante ensemble. On est ensemble avec une rigueur qu'impose la musique et ça, c'est pour moi, c'est magnifique.
Je vais parler d'un registre un petit peu plus intime. On a dit que la voix subit des changements au cours de la vie. Cependant, avec une bonne technique vocale, on parvient à conserver la richesse de la voix malgré les épreuves de la vie, et ce jusqu'à un âge très avancé. Je pense aussi à cela parce que vous êtes une jeune maman, comblée, je sais. Pouvez-vous nous parler du rapport à la voix pendant la grossesse et après l'accouchement? Est-ce que cela s'est bien passé ou bien avez-vous eu des surprises?
En fait, pendant la grossesse, j'ai encore plus pris conscience physiquement de ce qui se passait au niveau de mon souffle. Le fait d'avoir la place du bébé qui fait que ça remonte un petit peu le diaphragme ou quoi, j'ai pris conscience de cette ouverture des côtes encore plus. Tout ce qu'on nous enseigne au conservatoire pendant des années, on nous parle quand on nous enseigne le chant, vous savez très bien ce que c'est, de mobiliser ce fameux périnée pour être bien aligné et sortir des aigus ou quoi. Très franchement, je ne comprenais pas du tout de quoi me parler, je ne disais rien. Mais bon, j'essayais de faire les choses comme me les disait, mais je ne comprenais pas grand-chose. Par contre, après l'accouchement et après la rééducation du périnée, j'ai enfin compris de quoi il s'agissait. Et c'est un élément extrêmement important quand on est chanteuse, et notamment chanteuse d'opéra, parce qu'on chante sans micro. L'idée, c'est de réunir toutes les forces qui sont en nous pour créer un son des harmoniques, c'est-à-dire le vibrato naturel. Alors le vibrato naturel, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui nous permet justement de chanter sans micro. Donc c'est d'avoir ce son qui est uniquement créé par l'accolement de nos cordes vocales et qui résonne dans l'espace qui nous est donné et qui du coup ne nécessite pas de micro, de retransmission. En fait, c'est génial d'accoucher. Voilà, évidemment, il faut que ça se passe bien. Dans mon cas, ça s'est bien passé, mais en fait, on apprend énormément. Après la grossesse, j'avoue que ça a été une page qui s'est tournée, qui a été pour moi vraiment déterminante et très agréable.
Vous aviez conservé tous vos aigus avec la grossesse.
Oui, je n'ai pas eu de problème de perte d'aigus ou quoi. Je sais qu'il y a des personnes, par contre, mais chaque corps est différent. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de science exacte. Il y a certaines personnes qui ont perdu des aigus, qu'ils ont retrouvés. Je pense notamment, me semble-t-il, à Barbara Hendricks, qui a eu ce type de problème, mais qui après les a retrouvés. Tous les corps sont très différents. Après, bon, j'en sais rien. Beaucoup de gens me disent que je suis vraiment très solide. Parce qu'évidemment, dans notre métier, on voyage beaucoup. Voilà, après, je le dirai peut-être après, mais le secret pour bien chanter, c'est de bien dormir. Et ça, c'est extrêmement important. Après l'accouchement, après plein de choses, c'est ce que je préconise à tout le monde, que le sommeil est de toute façon réparateur. La voix est un muscle. Donc, pour se régénérer, si le sommeil est bon, déjà, on a quand même beaucoup de chances de pouvoir rechanter vite, bien. Et en plus, avec une technique solide, comme vous le disiez tout à l'heure, normalement, ça revient quand même assez facilement.
Vous n'avez pas eu de problème, comme par exemple Julie Fuchs, qui s'est vue refuser des engagements parce qu'elle était enceinte. Vous n'avez pas rencontré ce genre de...
Ça ne m'est pas arrivé, mais cette histoire est absolument absurde. C'est quand même incroyable, en effet, cette histoire qu'a traversée Julie Fuchs. Je pense que ce n'est pas la seule, mais en fait, c'est une sorte de... C'est de la discrimination, mais de la discrimination... Dans ce métier-là, il y en a sous plusieurs formes. Il y a la discrimination par rapport au poids. On est soit trop gros ou même trop maigre ou trop grand ou trop petit selon les autres rôles que le metteur en scène a casté ou quoi. Enfin, de toute façon, on est un peu tributaire dans ce métier. Et ce n'est pas forcément une énorme critique que je fais de toute façon parce qu'il faut être conscient que visuellement, il faut que le rendu soit cohérent. C'est-à-dire que si on met, j'en sais rien, un ténor de 2 mètres avec une soprano de 1,50 m, ou le contraire, une soprano de 2,90 m avec un ténor, un amoureux, j'en sais rien, de 1,50 m, pareil aussi, peut-être que, je sais pas. Même si très franchement, pour moi, le plus important, c'est la voix. Mais bon, après, il y a quand même des choses esthétiques qui, pour beaucoup, priment. Mais ça, c'est pas d'aujourd'hui, ça a toujours existé.
On vous écoute dans le magnifique air « Ah, je veux vivre » de Charles Gounod. Dans Roméo et Juliette, lors du concours Vignas en finale. Est-ce que le milieu du chant lyrique se porte bien avec la conjoncture actuelle? Le secteur est-il touché par la crise économique? Et si oui, êtes-vous inquiète?
Le secteur est bien évidemment, est touchée par la crise économique, la crise culturelle, je dirais même, ça dépasse la crise économique. Il y a des gens qui ne savent même pas ce que c'est qu'un bâtiment d'opéra. Et ça, je trouve ça quand même assez inquiétant, de même qu'il y a de moins en moins de gens qui lisent des livres. Peut-être que les choses seront remises à niveau. Je pense qu'il y a un gros travail à faire déjà au niveau de l'éducation nationale. Il y a beaucoup de secteurs, je pense, qui pourraient rentrer en jeu pour faire en sorte que déjà l'opéra se porte mieux. Il y a évidemment des actions qui sont menées. Je ne peux pas ne pas parler de l'Opéra National du Capitole, avec qui je travaille beaucoup. C'est-à-dire que j'ai la chance de faire beaucoup de grands rôles dans cette maison, qui est en plus notre voisine. Mais en dehors des grands rôles que je peux faire à l'opéra, j'ai aussi la chance de pouvoir faire des actions culturelles. C'est-à-dire qu'avec l'Opéra National du Capitole, j'ai fait des interventions en école pour permettre de faire venir en fait, l'opéra dans certains établissements des collèges, des lycées. Et dernièrement, j'ai aussi fait des récitals rencontres pour faire venir en fait, un nouveau public, des gens novices, des récitals en fait, où je chante un morceau et puis après ils me posent les questions qu'ils veulent, de façon à ramener un nouveau public. Ça, c'est l'Opéra National du Capitole qui se porte en plus extrêmement bien. En revanche, il y a d'autres opéras qui se portent moins bien. Le problème, c'est que les finances aussi sont tirées vers le bas et il y a du coup moins d'offres pour le public et du coup aussi pour les chanteurs, forcément. Donc c'est quand même un secteur qui est relativement en crise. Je pense qu'il va falloir penser à de nouvelles formules, peut-être, pour amener l'opéra là où il ne va pas. Et puis surtout, permettre aussi, c'est ce que fait notamment l'Opéra National du Capitole, c'est aussi faire rendre compte aux gens que c'est une porte que tout le monde peut ouvrir. C'est une porte qui est accessible vraiment à tout le monde. Évidemment, il y a peut-être des fois l'aspect financier qui peut rebuter, mais il y a quand même des solutions qui sont offertes, il y a des places à différents prix. Je crois qu'il y a surtout une appréhension. Une appréhension, et cette appréhension-là, il faut savoir la surmonter. On est des artistes comme tout le monde, et surtout, il faut savoir que l'opéra, ça reste un art à vivre en direct. C'est-à-dire que les vibrations de la voix, les vibrations de l'orchestre sont quand même faites pour être vécues en live. Et je suis toujours ravie quand j'arrive à faire découvrir l'opéra à de nouvelles personnes qui n'ont jamais entendu la voix dans cet état-là et qui me disent « Mais mon Dieu, mais j'ai été touchée en plein cœur, j'ai des larmes qui sont venues ou du rire, ou mes oreilles, mon corps a réagi d'une façon dont il n'avait jamais réagi. » Et ça, c'est extrêmement intéressant. Je n'irai pas jusqu'au terme, et encore que je le pense très profondément, que le chant est une thérapie. Mais pour la culture, pour tant de choses, pour le bien-être de l'esprit aussi, on a besoin, je crois, en plus dans notre société, de rire, on a besoin de rêver, on a besoin de penser, de réfléchir. Et l'opéra, en plus, traite souvent de sujets qui sont de toute façon toujours actuels. La politique, la rivalité de classe sociale, ça traite de sujets, même si c'était il y a plusieurs siècles, c'est des sujets qui souvent sont mis au goût du jour avec des mises en scène qui sont relativement actuelles ou des mises en scène classiques et qui, quand on va voir un opéra, moi-même, je vais voir le maximum d'opéras parce que ça donne à réfléchir sur nous-mêmes, sur la société et ça, c'est très important de pouvoir se nourrir intellectuellement chacun.
Anaïs, quelle est votre production préférée ?
La production dans laquelle j'ai chanté ?
Oui, dans laquelle vous avez chanté.
Je dirais que ma production la plus marquante, parce que ma préférée, c'est franchement très compliqué à déterminer, parce qu'il y en a beaucoup que j'ai adoré. J'ai adoré faire Marie dans La Fille du Régiment, parce que c'est un personnage très authentique et en même temps virtuose, que j'ai adoré faire. Ou j'ai adoré évidemment chanter Mimi dans La Bohème. Mais pour moi, la production la plus marquante, ce fut Blanche de la Force dans Le Dialogue des Carmélites. Bon, ça a été une période très compliqué pour moi parce qu'en fait j'ai perdu mon papa pendant cette production. Évidemment, ça marque encore plus un artiste, mais ce fut une production extrêmement marquante parce que c'est une histoire vraie. C'est l'histoire de ces carmélites qui ont été décapités à la Révolution. Et de chanter pour de vrai ce rôle de Blanche de la Force entourée d'artistes merveilleux, c'est un opéra de femmes. Et de pouvoir partager cette expérience forte sur scène. Ça, ce fut vraiment, un cadeau, même si c'est un cadeau difficile, parce que pour moi, c'était une période vraiment très compliquée. Mais malgré tout, c'est un cadeau parce que le chant, le fait de pouvoir chanter ce genre de rôle, c'est un exutoire incroyable. Et pour ça, je remercie parce que c'est... il faut savoir capter ces moments-là, savoir rester professionnel, comme vous le disiez tout à l'heure au début de l'entretien. La technique, il faut rester artiste aussi avant tout, parce qu'on est là pour servir la musique, servir le compositeur, le librettiste qui se sont unis pour créer des œuvres absolument magnifiques qui aujourd'hui traversent les siècles.
Et Anaïs, le rôle que vous n'avez pas encore fait et que vous rêveriez de faire?
Un des rôles que je rêverais de faire, hein, il faut en choisir, c'est pas facile d'en choisir un. Je dirais Lucia de la Mermoor, par exemple, de Donizetti, qui est un rôle extrêmement difficile, parce que c'est un rôle complexe psychologiquement. Et c'est aussi de trouver ce lâcher-prise. Vraiment, ce métier-là, c'est mettre Anaïs de côté et faire place à l'artiste, donc selon le rôle que l'on incarne. Et ce rôle-là permet de passer d'autres limites encore par rapport à ce lâcher-prise d'artiste. Voilà, si je devais en citer qu'un, ce serait celui-ci pour aujourd'hui. Et peut-être que dans quelques années, ce sera d'autres.
C'est un rôle de grande maturité.
Oui.
Merci beaucoup Anaïs pour cette première partie d'émission. Je rappelle à nos auditeurs qu'on se retrouve le mois prochain pour la seconde partie. À tout bientôt.
Merci à vous. À bientôt.
In una mia